franceinter.fr.
Marcel !
Il n'y a pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons passés avec un livre préféré.
Au fond, je m'habituerai vite à être loin de maman.
Un été avec Proust. Une émission de Laura Elmaki.
Il n'y a pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Ce sont les premiers mots de l'essai intitulé « Sur la lecture », écrit par Marcel Proust et publié en 1906. Ces souvenirs de lectures enfantines sont précieux pour le romancier, qui a pris soin de les reconstituer dans la première partie de « Du côté de chez Swann ». Le narrateur se souvient ainsi de ses jeunes années, lorsqu'il lisait dans le jardin de sa tante Léonie et dans sa chambre à Combray, seul ou avec sa mère. Sa mère qui, la première, l'initie au plaisir des mots en lui lisant, avant qu'il ne s'endorme, les incontournables romans de George Sand. Et qui est-ce qui lui achète ces livres, qui les choisit amoureusement? Eh bien, c'est la grand-mère du narrateur qui veille à lui donner des choses bien écrites. Ces deux femmes qui se complètent et se confondent tout au long de la recherche du temps perdu ont donc un rôle primordial dans la vocation du narrateur, comme de Marcel Proust. Et nous parlons ce soir de cette double figure maternelle avec le biographe Jean-Yves Tadié pour ce deuxième épisode autour des personnages du roman.
Romain Gary, qu'est-ce d'abord une mère pour vous?
Une mère, d'abord, c'est un cordon ombilical avec la nature, avec l'océan, la terre, le champ, l'air, le soleil, la mer. C'est le retour aux sources dans le beau sens du terme.
Est-ce que je peux vous demander si dans votre enfance, puis dans votre adolescence, sans doute, vous avez ressenti le besoin de ce lien direct et permanent avec la mer et si vous en avez supporté les conséquences bénéfiques par la suite, personnellement?
J'ai été évidemment marqué par cette mère, qui n'était nullement possessive, mais qui avait évidemment, comme j'étais son seul fils, avait des rêves extraordinaires pour moi, que j'ai essayé plus ou moins consciemment de réaliser. Je dois dire qu'il y a un danger dans le cas des rapports trop absolus entre la mère et le fils, en ce sens que lorsqu'un homme, un fils, un jeune garçon, un enfant, prend l'habitude de dépendre un peu trop fortement sur un seul être, il lui est très difficile après d'avoir des liens similaires avec d'autres, ou en ce sens de trouver l'appareil. Par exemple, toute la notion d'amour, lorsque vous avez aimé trop profondément un être, et vous savez, le complexe d'Œdipe à cet égard est une bonne rigolade parfois, on peut aimer vraiment très profondément un être sans, d'une manière qui ne vous marque en rien. Du point de vue psychiatrique, je crois que c'est mon cas. Mais de toute façon, cette dépendance exclusive sur un seul être est dangereuse pour les rapports humains à venir.
Bonsoir Jean-Yves Tadié.
Bonsoir.
Romain Gary se souvenait à l'instant de sa mère extraordinaire et de l'amour absolu, mais aussi compliqué qu'il entretenait avec elle. Sa mère, qui est le personnage principal d'ailleurs de La Promesse de l'Aube. Et comme dans ce roman, la recherche ménage aussi une place importante à la figure maternelle. Et c'est peut-être un livre qui la met à l'honneur d'une manière assez inhabituelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre qui lui est destiné?
Certains m'ont dit qu'en effet, La Chasse de Perdu était une immense lettre adressée par Marcel Proust à sa mère. Et en effet, dans un premier projet, tout commence et tout finit par une conversation entre l'écrivain et sa mère. Mais justement, il a rompu avec ce projet, et d'autres pensent au contraire que c'est la mort de sa mère qui l'a libérée, et que si elle avait toujours vécu, il n'aurait jamais pu écrire À la recherche du temps perdu. Et à ce moment-là, il résout le problème, finalement, par la création romanesque. Et il le résout d'ailleurs doublement, puisqu'il ne fait pas un seul personnage, celui de la mère, comme par exemple chez Romain Gary, justement, pas du tout. Il crée deux personnages très différents, qui ont une fonction très différente dans le roman, et qui sont donc tous les deux réimaginés presque complètement, la mère et la grand-mère.
Alors, Romain Gary et Proust ont ceci en commun, qu'ils ont tellement peut-être aimé leur mère, qu'ils ont eu du mal après à aimer d'autres femmes. Au questionnaire, au célèbre questionnaire qu'on lui a soumis, Proust avait répondu à la question « Quel serait votre plus grand malheur ?» Il a dit « Ce serait d'être séparé de maman. »
Oui, on peut très bien dire qu'une étude grossière de la genèse, du psychisme de ces deux écrivains aurait mené l'un à n'aimer aucune femme et l'autre à en aimer trop. Sans pouvoir se centrer sur aucune.
Alors les premières pages de Du côté de chez Swann sont consacrées à cette fameuse scène du coucher, avec le narrateur qui attend désespérément dans son lit que sa mère vienne lui dire bonne nuit. C'est à la fois un passage très heureux et en même temps très déceptif. Il parle d'une abdication à la fin, quand sa mère vient finalement, accepte de dormir avec lui.
Oui, et en fait, la situation est la suivante, que tout le monde connaît. Ce baiser du soir rituel qu'elle vient donner à son fils dans sa chambre au premier étage, elle ne le donne pas parce qu'il y a un invité qui est Swann. Et ce fils fait une comédie, sort sur le palier, une crise d'angoisse. Et finalement, c'est le père qui cède et qui dit à la mère... va avec le petit. C'est ce que Proust appelle l'abdication des parents du héros. D'où viendraient tous ces malheurs? Alors, il s'agit évidemment d'une scène symbolique qui s'est peut-être produite plusieurs fois. Cette abdication n'a peut-être pas eu lieu qu'une seule fois. Mais tout se passe comme si le héros reprochait à ses parents de l'avoir mal élevé et d'être responsable de tous ses malheurs.
Un été avec Proust, Jean-Yves Tadier, Laura Elmaki.
Alors, ce qu'il y a de particulier dans la recherche, c'est que la figure maternelle, elle est double. Il y a la mère, il y a aussi la grand-mère qui, malheureusement, va disparaître assez vite. Et dans Le côté de Guermantes, il y a un passage assez émouvant sur la séparation, justement, du narrateur d'avec sa grand-mère. Donc, le narrateur qui rend visite à Saint-Loup, qui se trouve à Doncières, et qui parle avec sa grand-mère au téléphone, sa grand-mère qui lui dit d'en profiter et surtout de pas se presser de rentrer. Et à travers l'appareil, le narrateur prend conscience de la distance qui le sépare d'elle et de ce que cela signifierait de la perdre véritablement. Robin Renucci nous lit cet extrait pour nous.
Ce que j'avais sous cette petite cloche approchée de mon oreille, c'était débarrassé des pressions opposées qui chaque jour lui avaient fait contrepoids, et dès lors irrésistible, me soulevant tout entier, notre mutuelle tendresse. Ma grand-mère, en me disant de rester, me donna un besoin anxieux et fou de revenir. Cette liberté qu'elle me laissait désormais, et à laquelle je n'avais jamais entrevu qu'elle pût consentir, me parut tout d'un coup aussi triste que pouvait être ma liberté après sa mort, quand je l'aimerais encore et qu'elle aurait à jamais renoncé à moi. Je criais « Grand-mère, grand-mère !» et j'aurais voulu l'embrasser. Mais je n'avais près de moi que cette voix, fantôme aussi impalpable que celui qui reviendrait peut-être me visiter quand ma grand-mère serait morte. « Parle-moi !» Mais alors il arriva que, me laissant plus seul encore, je cessai tout d'un coup de percevoir cette voix. Ma grand-mère ne m'entendait plus, elle n'était plus en communication avec moi. Nous avions cessé d'être en face l'un de l'autre, d'être l'un pour l'autre audible. Je continuais à l'interpeller en tâtonnant dans la nuit, sentant que les appels d'elle aussi devaient s'égarer. Je palpitais de la même angoisse que, bien loin dans le passé, j'avais éprouvé autrefois. Un jour que, petit enfant, dans une foule, je l'avais perdue. Angoisse moins de ne pas la retrouver que de sentir qu'elle me cherchait, de sentir qu'elle se disait que je la cherchais. Angoisse assez semblable à celle que j'éprouverais le jour où on parle à ceux qui ne peuvent plus répondre, et de qui on voudrait au moins tant faire entendre tout ce qu'on ne leur a pas dit, et l'assurance qu'on ne souffre pas. Il me semblait que c'était déjà une ombre chérie que je venais de laisser se perdre parmi les ombres. Et seul devant l'appareil, je continuais à répéter en vain « Grand-mère, grand-mère !» Comme Orphée resté seul répète le nom de la morte.
La tristesse du narrateur ne pouvant atteindre sa grand-mère, c'est un passage assez touchant et surtout quand on sait que quelques pages plus loin, la grand-mère va mourir et qu'il se souviendra d'elle dans ce fameux passage des intermittences du cœur.
Oui, c'est un passage extrêmement émouvant parce que Proust l'a écrit trois fois dans sa vie, au moins. Une première fois, c'est une lettre à sa mère alors qu'il se séparait d'elle à Fontainebleau, pourtant pas très loin, à l'hôtel. Une deuxième fois dans Jean Santeuil, son premier roman, et une dernière fois dans l'autorité de Guermantes. Et donc, ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est l'amour pur. On remarquera que le narrateur n'a plus de caractère, la grand-mère non plus, leur physique n'entre pas en jeu, rien de tout cela, rien de ce qu'ils peuvent dire, c'est simplement l'essence de l'un qui fait appel à l'essence de l'autre. C'est vraiment c'est la pureté de l'amour total. Et cet amour total dont, effectivement, Proust ne guérira jamais, parce qu'il n'arrivera jamais à l'éprouver vraiment pour d'autres que cette ombre, qui est l'ombre de sa mère, devenue, grâce à son art de romancier, sa grand-mère, la mère ayant dans le roman une autre fonction. Alors, un peu plus tard, bien sûr, la grand-mère va tomber malade et elle va mourir. Et comme on sait, ce n'est que beaucoup plus tard, dans la scène dite des intermittences du cœur, que le narrateur va découvrir vraiment, par un phénomène de mémoire involontaire, et qu'il a perdu sa grand-mère. Et c'est au moment où il comprend qu'il l'a perdue à jamais, qu'elle est là comme un fantôme vivante devant lui. C'est une des plus belles scènes du roman.
Les intermittences du cœur qui font partie de Sodome et Gomorre.
Exactement. Donc oui. Les intermittences du cœur, c'est une allusion à une maladie de cœur, c'est les rythmes inégaux des battements cardiaques.
Alors revenons à la mère et à la grand-mère. Pourquoi Proust leur donne autant d'importance finalement à ces deux femmes? Quelles sont leurs fonctions chacune?
Dans le roman, la mère a une fonction comme le père d'autorité finalement. Qu'elle exerce ou qu'elle n'exerce pas, c'est elle qui va contribuer à faire briser l'amour entre le narrateur et Gilberte, par exemple, cette petite fille aux Champs-Élysées, ce qui s'est réellement passé dans la vie de Proust, du reste. C'est elle qui va rappeler à l'ordre périodiquement aux exigences de la santé. C'est elle qui va critiquer la liaison du héros avec Albertine beaucoup plus tard. C'est une jeune fille qu'elle n'apprécie pas. Et la grand-mère, elle, a toute la fonction de tendresse et de compréhension à l'égard de son petit-fils, d'indulgence même excessive. Elle se prête à tous ses caprices, elle lui arrange même ses lacets de souliers lorsqu'il est trop fatigué pour se baisser, soi-disant, pour les refaire. Elle lui laisse faire absolument tout ce qu'il veut. C'est une forme d'amour qui n'exige rien, qui a quelque chose là encore de très très beau et presque d'évangélique. C'est un personnage entièrement donné aux autres que cette grand-mère. Et puis elle meurt donc, et on s'aperçoit d'ailleurs qu'à la fin du roman, les parents sont complètement estompés. Donc la mère aussi disparaît, on la voit pratiquement plus dans Le Temps retrouvé, mais on la voit dans Le Voyage à Venise d'Albertine disparue, où elle accompagne son fils, et là il y a de nouveau une très belle scène où la mère veut rentrer à Paris et son fils veut rester à Venise. Et il y a un moment où il se sépare de sa mère, elle est partie pour la gare, et puis il ne supporte pas cette séparation, comme si tout à coup la mère était devenue la grand-mère, et il se précipite à son tour vers la gare. C'est la dernière fois sans doute que la mère jouera un rôle important dans le roman. Mais ce qui est important aussi, c'est que Proust a trouvé un domaine où sa mère ne mourrait jamais. C'est à la fois immortalisé dans le personnage de la grand-mère qui meurt mais qui reste immortelle, et dans le personnage de la mère qui ne connaît pas la mort dans le roman.
Mais elle disparaît un petit peu quand même.
Elle disparaît, elle s'évanouit, mais elle n'est pas morte. Elle est tout de même peut-être là quelque part, derrière la page.
En quelque sorte, il a voulu éviter à son narrateur ce que lui-même a subi dans sa propre vie.
La littérature est une revanche sur le destin. Si la mort est notre destin, la littérature, c'est le lieu où on ne meurt pas.
Alors, j'aimerais qu'on revienne à ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que ce rapport fusionnel empêche le narrateur de vivre d'autres histoires d'amour. Il n'y a qu'un amour possible, celui de l'amour maternel. Dans votre dernier ouvrage, Le Lac Inconnu, vous avez un peu exploré les affinités entre Proust et Freud. Qu'aurait dit Freud de cette relation entre le narrateur et sa mère, et sa grand-mère?
Bien, c'est très probablement une réincarnation du complexe d'Édipe, avec un amour excessif pour la mère. Et quant au désir de tuer le père, il est moins voyant dans La Chasse perdue, mais il se remarque tout de même par le relatif effacement de la figure paternelle, notamment depuis l'abdication. En somme, le père s'est tué lui-même en abdiquant face à son fils. Il n'existe plus. Et alors, le problème est que ça pose aussi la question de l'homosexualité. Vous savez que pour Freud, là encore, l'homosexualité venait d'une identification totale à la mère qui faisait que le fils, le jeune homme, ne pouvait aimer que les mêmes objets que sa mère, c'est-à-dire des jeunes gens. Alors là, on ne voit pas ça dans le roman, puisque le narrateur n'est pas homosexuel, mais on le voit bien entendu dans La vie de Proust.
Merci beaucoup Jean-Yves Tadié. Vous revenez demain pour nous faire redécouvrir le célèbre Charles Swann, l'amoureux, le jaloux, l'artiste aussi, qui a donné son nom au premier volume de La Recherche. Toutes les références des textes cités à l'antenne sont bien sûr à retrouver sur le site de l'émission sur franceinter.fr.
To do some more, to je, to do some more, comme ça. La vie c'est épatant. To do some more, to je, to do some more, comme ça. La vie je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous aurez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces gens énervés qui ne savent pas aller. Flamant gentiment. N'allez jamais trop vite, en un mot simplement, pour revoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour viendra se blottir dans vos bois. Gentiment, en flânant gentiment.